curieux par rapport aux abeilles, c'est qu'entre la basse mer et la pleine mer, ici, tu as 8 mètres.
C'est énorme.
D'amplitude, hein,
ouais,
tu vois.
C'est énorme.
Entre la mer à basse mer, ici, et la mer à pleine mer. Ça représente, en fait, l'équivalent de l'élévation du niveau marin au cours des 8000 dernières années, 8 mètres à peu près. Moi, je trouve ce qui est assez fascinant, effectivement, mais pas facile, comme je disais, à représenter, c'est l'estran. L'estran est un domaine magique, d'une certaine manière, puisque hein, c'est tantôt la mer, tantôt la terre, et puis j'ai vu des gens perdus, hein, dans un estran pourtant très proche, complètement perdus, là, tellement il y a d'espace. Oui, ça n'a rien à voir, mais pour moi, estran, ça évoque étrange.
Donc nous voici à la maison des Haber et avec quelques documents sur la table. Donc Gérard tu me parles de ce livre qui s'appelle le Pythéas. Alors Pythéas, c'est donc ce grec dont tu nous as parlé tout à l'heure et qui aurait découvert l'astronomie, c'est ça?
Ouh, les marées.
Les marées.
Qui a découvert les marées.
Et qui donc aurait laissé tomber sa pièce à Pydalmézo.
Quelqu'un de son équipage, parce qu'ils sont partis, je crois, à toi. Plusieurs bateaux, peut-être 3 bateaux de Massilia, Marseille, 320 ou 322 avant Jésus-Christ. Et ils ont donc passé les colonnes d'Hercule, Gibraltar, et puis ils ont visité, donc, il y a son périple là quelque part, hein, dans les premières pages, et ils ont visité tout le septentrion, tout le monde du inconnu de l'océan Atlantique, donc avec ses marées et... C'était un excellent navigateur d'abord et un excellent observateur. L'astrologie, hein, la Lune, et il a tout de suite compris que les marées étaient finalement régies par les astres et notamment la Lune, Pythéas. Il est allé en Baltique, ça on sait. Il a fait le tour de la Grande-Bretagne, ça on le sait. Est-il allé jusqu'à l'Islande? Ça, peut-être un peu moins certain, mais... Et ils ont fait un voyage fabuleux et quand il est revenu de son voyage, il y a des gens même qui suspectaient qu'il racontait des histoires, quoi, tellement ça paraissait fabuleux. Et donc ce qui est l'histoire fabuleuse, c'est effectivement ce sesterce, hein, émis à Cyrène dans les années 318 avant Jésus-Christ, retrouvé dans le type d'une laminaire, hein, d'un jardinier qui tendait des algues dans son jardin à Pydalmézo. Et donc tout le monde de s'extasier, tout le monde de dire il y a une épave, il faut la chercher, on va la trouver. Évidemment, on va chercher une épave ici, dans le coin, tellement il y a de cailloux, hein, entre Carnes et le Bec et Guignoc, tu auras du mal à trouver l'épave. Mais la pièce était bien réelle. Alors où elle est maintenant la pièce, je ne sais pas.
Et comment était la mer à ce moment-là, du coup? Plutôt basse ou plutôt haute?
Quand il a trouvé, là.
Quand il l'a perdu. Pythéas a perdu.
Non, mais c'est une très très bonne question. Mais donc, effectivement, je vais te dire qu'il a perdu sur l'estran, quoi. Je ne sais pas l'heure.
Bon, il y a d'autres documents sur la table,
oui,
que tu voulais.
Oui, il y a un autre document qui, en fait, est un document assez fabuleux. Je trouve, ma part, c'est l'atlas des côtes, hein, ça s'appelle Atlas de la côte des Abers, présentation géomorphologique, évolution du littoral, de la côte nord-ouest du pays de Léon, Finistère, mémoire de maîtrise de géographie, de Alain Cor en Brest 1992. Alain Cor, tout en travaillant, a fait un travail colossal de recensement, notamment des cadastres, toutes les feuilles de cadastre des communes du littoral, et a comparé ces feuilles de cadastre d'année en année, hein, pour tous les documents, et a donc pu reconstituer la position du littoral. Il y a même dans son atlas là, des reproductions d'anciennes cartes, mais pour ce qui nous concerne le plus, c'est effectivement, ce n'est pas Tariec, hein. Ceci, tu reconnaîtras peut-être, hein, voilà, c'est le rocher du serpent, donc en 1910 et en 1992. Alors, on voit qu'il y a quand même un peu de sable.
Qui
est parti, quoi. Donc, il y a eu de l'érosion.
Ah
quoi.
Oui, on voit bien que le rocher est plus grand aujourd'hui.
Oui, oui. Oui, ce n'est pas le rocher qui pousse, c'est le sable qui s'en va. Un jour, ma petite fille m'avait fait cette remarque. Hein. On dirait que depuis l'année dernière, les rochers ont poussé.
C'est joli.
Oui. Voilà. Donc, ici, il y a une comparaison. Tu vois, ici, c'est la mer. Et c'est l'extrait du cadavre napoléonien de Plutarque Mézot, levé en 1843. Donc, en 1843, voilà notre rocher. Le rivage était là. Donc, il était dans la dune. Et donc, en 1984, évidemment, le rivage est là. Et il y a 50 mètres de ce rocher qui sont dans le...
Et c'est donc les photos qu'il a recueillies qui permettent de voir ça, ou bien il y a d'autres éléments? C'est vraiment les éléments de cadastre.
C'est un cadastre. Voilà, ouais. Les photos arrivent à l'appui de ça. Mais si je reviens par ici, je vais trouver ici quelque chose qui va t'intéresser encore davantage, tu vois. C'est l'évolution du littoral entre 1843 et 1984. Donc, tu vois, avec un recul du littoral de 50 mètres, ici, au niveau de Rochard Serpent.
Et donc, au niveau du blocos.
Et bien voilà, ici.
Ah, il est une étoile, là, sur cette carte.
Voilà, voilà, en 1984, sa position. Et tu vois notre ruisseau, là, le Tréhompant, enfin, notre petit fleuve, il était là. Si tu mesures ça, cette distance-là, ça fait presque 50 mètres, entre ça et le littoral de 1984. Donc, depuis 1984, tu vois, la côte a reculé, hein, elle arrive actuellement à ce niveau-là, quoi, hein, c'est-à-dire plus de 50 mètres.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, parce que je vois derrière qu'il y a une route, veut dire que la dune passe sur la route?
Ah non, ici, cette route-là, c'est le carrefour qu'on prend, le chemin d'accès, le parking, il est là, quoi, hein, il est là.
Mais ça veut dire que la dune se défait?
Ah oui, absolument, là, surtout là. Tu vois, ici, c'est la position des blocos qui sont à côté.
Les trois, oui.
Ils sont
à trois, ils sont toujours
en haut. Ils sont toujours, oui, on n'a vu que deux. Ils sont toujours en haute plage. Tandis qu'ici, au niveau de l'embouchure du Tréhompant, hein, disons, de ce fleuve, il y a une érosion énorme. Hein, le fleuve lui-même, oui. c'est pas la houle qui érode ici. Ici, c'est le fleuve, hein, qui a un petit fleuve côtier, tout cours d'eau qui arrive en mer. Chez nous, on les appelle des fleuves. Même s'ils sont tout petits, mais c'est des fleuves côtiers. Donc là, il y a une érosion énorme.
Et je vois même que le lit de ce petit fleuve a changé, puisque
ah oui,
maintenant, il va directement vers la mer, vers le nord.
Ah non, mais écoute, il y a quelques jours, là, on le voyait venir comme ça. Mais,
ouais,
mais là, il vient d'être dévié et on l'a fait repartir tout droit. Mmh. D'accord. Alors que sa tendance, apparemment... naturel, si on peut dire, serait plutôt d'aller vers l'ouest, hein, dans
oui,
la mesure où la dérive du sable littoral viendrait comme ça. D'accord,
la dérive, ça veut dire qu'il y a plus de sable,
oui,
et que lui, il est gêné, oui, par le sable qui vient de,
oui,
l'est.
Oui, oui, oui.
Et donc,
oui, oui,
il part, il aurait tendance à partir vers l'ouest.
Voilà, la dérive du sable est plutôt par là, serait par là.
D'accord.
Voilà ce que nous montre très bien cette carte, hein, d'Alain Cor, où il a placé également les principales lignes
de mer,
d'érosion, de houle.
Non, de houle, d'accord.
Des houles qui érodent. Et puis là, on va faire un grand saut dans le temps. Hein. C'est la thèse que tu connais, hein, dont tu as entendu parler, de Aurélie de Hoek, faite en 2003, soutenue le 3 octobre 2006, où elle présente des résultats un peu annexes, parce que l'essentiel est quand même plutôt sur les grands sablons, hein, au Conquet, où elle a quand même étudié de façon très pointue, on peut dire, le Tréhompant. Tréhompant a été très bien étudié. Écoute, on va retrouver...
Donc elle a repris les travaux d'Alain Cor, ou bien
non,
elle est partie d'autre chose? Ce n'est pas la même façon de penser.
Non, elle est partie, elle, des photographies aériennes. Alors, est-ce que c'est... Voilà, c'est tout à fait à la fin. Elle a travaillé sur la plage de Coulouarn, hein, qu'on a longée. Et ici, on se trouve à la maison des Abers, à Cornargazelle. Tréhompant, c'est ce petit bout ici. Voilà, où elle montre, tu vois, notamment ici au niveau de l'embouche. Non, là, on n'y est pas. Oui, ça, c'est triomphant.
Non, ça, c'est les blancs sablons. Dune de Tréhampan, une tête là, hein, c'est ça.
Voilà. Donc, tu vois, c'est l'évolution du littoral, c'est basé sur des photographies de 1952 à l'an 2000, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 jeux de photographies qui ont montré qu'il y avait eu une, on va dire, une progression du littoral, tu vois, du côté est, assez importante, entre 1967-1990 notamment. Ici, c'est la zone où, effectivement, les bocaux sont recouverts. Et puis, cette zone-ci, où entre 85 et 95, il y a eu une avancée importante de la mer, moins 0,9, presque un mètre entre 85 et 90, et 0,3 mètres entre 93 et 95. Donc, en l'espace donc, de 10 ans, on a un recul de 6 mètres à peu près.
Hein. Oui, mais sur une petite partie de la plage, en fait.
Oui, sur la partie blocos, justement. Oui. Hein, sur la partie blocos.
Du blocos qui nous intéresse, voilà. Parce qu'il y a des blocos de chaque côté, plus les trois qui sont là.
Oui, on a... Disons, on peut penser que ce sont surtout les vents du nord d'est, hein, comme on en a eu il y a peu,
qui viennent éroder cette partie-là.
Qui viennent éroder cette partie-là, plus le fleuve.
Plus le fleuve. Mais alors, du coup, les sables véhiculés par là reviennent reformer le littoral sur l'est.
Oui.
Quoi.
C'est ça. Il y a une espèce de cellule qui se forme. Effectivement, le sable a du mal à s'échapper
de la baie.
Carrément. Tu as tout compris.
Mais ici, on voit aussi que, du coup, la dune est beaucoup plus étroite à l'endroit où est notre blocos. Et qu'ici, à l'endroit où le littoral gagne, elle est plus large. Donc on voit bien que la dune pourrait disparaître.
Oui, là, à vrai dire, c'est la limite de la zone dune de Tréhampan. Oui, d'une certaine manière, tu as raison. Elle est assez étroite, là, par rapport à cette pointe de Carme, comme tu l'appelles. Et elle s'élargit par ici, effectivement. Donc
c'est même, ce qui est frappant, c'est qu'il y aura même une transformation du paysage à ce niveau-là assez vite, rapidement.
Il y a un recul important là, effectivement, et puis si ça continue comme ça, la mer va continuer à creuser et va remonter jusqu'au parking.
Oui, parce que ce qui m'a frappé, c'est que je suis venue il y a quelque temps aux Grandes Marées, et il y avait de l'eau derrière le blocos. Donc non seulement il y avait la rivière, mais j'ai vu aussi le blocos entouré de mer.
Oui.
Donc on pourrait imaginer que prochainement, la mer arrive sur le parc.
Enfin, je pense que certainement que la commune prendra les moyens nécessaires pour arrêter la mer.
On a déjà vu aujourd'hui même qu'il y avait des tractopelles sur la plage.
Des grands moyens pris, et donc...
Changer le cours du fleuve, même.
La mer ne gagnera pas, c'est sûr.
À temps humain, peut-être à temps géologique, c'est différent.
Oui, à temps humain, elle ne gagnera pas.
Sauf si un tsunami.
Ah, ça, c'est autre chose. Oui, il ne viendra pas de ce côté-là. Bon, alors, donc Pythéas, Alain Corre, Aurélie. Voilà, c'est les trois sources, sérieuses, scientifiques, sur la zone. Historique avec Pythéas, et scientifique, et
géographique,
scientifique aussi, des bonnes observations, vraiment sérieuses, qui sont donc valables. Ces éléments les plus vieux sont en général 1843, et puis 1980, dans les années 90. Et puis voilà.
Aurélie de Hoek, donc, qui elle est docteur en géographie aussi, morphodynamique des plages sableuses de la mer d'Iroise.
Je crois qu'elle est repartie à Paris. Aurélie, elle n'a pas dû trouver du travail par ici. C'est pourtant pas le travail qui manque.